Nose don't care about the rhythm that breaks, because the music is down that when your body wants to. Action.
7h.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU sur RFI.
À l'écoute des RFI, il est 7h à Paris, 9h30 à Téhéran.
Andréane Mélard.
Et Guillaume Ouattara pour le journal. Bonjour Guillaume.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, ça passe ou ça casse pour Marine Le Pen.
Début aujourd'hui du procès en appel de la leader de l'extrême droite française dans l'affaire des assistants européens du Front National. En première instance, elle avait été condamnée à une peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Elle saura d'ici cet été si l'aventure présidentielle se termine ou se poursuit. Dans l'actualité également, un terrible bilan en Iran. Plus de 600 morts selon l'ONG Iran Human Rights, qui pourrait être bien pire dans les rues et dans les morgues, les corps s'amoncellent. La contestation, elle ne faiblit pas. Eux attendent en vain la libération de leurs proches, malgré les promesses, les effets d'annonce au Venezuela, des centaines de familles sans nouvelles de prisonniers politiques. Les violences sexuelles utilisées comme arme de guerre en RDC, nouveau rapport publié par une ONG. Et puis, est-ce un nouveau tournant dans la bataille sino-européenne ? Fléchissement des droits de douane à venir sur les véhicules électriques en provenance de Chine.
Un procès à très haut risque et peut-être un couperet politique.
Marine Le Pen revient devant la justice presque un an après une condamnation qui l'avait frappée d'inéligibilité immédiate. La cour d'appel rouvre ce mardi le dossier explosif des assistants parlementaires européens du Front National devenu Rassemblement National. Un mois d'audience pour revisiter ce que les juges avaient décrit comme un système de détournement de près de 3 millions d'euros, une fois déduit plus d'un million d'euros, déjà remboursé par une partie des prévenus. Au bout du chemin, un enjeu immense, le droit ou non pour Marine Le Pen de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Raphaël Delvolvé.
Pas question pour elle de montrer le moindre signe de faiblesse.
Je suis comme toute personne qui fait appel, pleine d'espoir.
Et quand bien même elle joue sa peau, Marine Le Pen n'a pas l'intention de plaider coupable.
Il y a un seul axe de défense, c'est de dire la vérité, en espérant être mieux entendue en appel.
Tout à l'heure, elle se présentera donc comme innocente et de bonne foi, elle mise sur le changement de juridiction.
C'est une nouvelle juridiction, avec de nouveaux magistrats. L'affaire va être remise à zéro, en quelque sorte.
Les ajustements de stratégie se nicheront peut-être dans les détails techniques. Ces derniers mois, la double finaliste à la présidentielle a consulté de nombreux juristes et recruté un deuxième avocat. Objectif, obtenir au minimum une peine atténuée permettant une candidature via une durée d'inéligibilité réduite ou le retrait de la fameuse exécution provisoire. Réponse à l'été. Et quel que soit le résultat, verdict politique en septembre.
En septembre, le Rassemblement national doit pouvoir être représenté à l'Assemblée nationale et la campagne doit démarrer, quel que soit ce candidat.
Elle a déjà prévu de passer le flambeau à Jordan Bardella en cas d'empêchement si la peine était confirmée ou alourdie. La séquence qui s'ouvre va d'ailleurs lui demander beaucoup d'énergie, car elle compte être présente aux audiences, mais aussi faire campagne en parallèle, avec des déplacements prévus dès cette semaine pour soutenir les candidats RN aux municipales.
Raphaël Delvolvé pour RFI. Notez que le procès se tient donc jusqu'au 12 février. Marine Le Pen sera fixée sur son sort avant l'été.
Donald Trump hausse le ton face au durcissement de la répression iranienne.
Il promet des droits de douane de 25% immédiats au pays qui ferait affaire avec Téhéran. Il menace d'options très fortes, y compris militaires. Et ses conseillers les plus proches doivent lui présenter ce mardi une batterie de mesures économiques et militaires contre l'Iran. Et pendant que Washington durcit le ton, le pays, l'Iran, lui, s'enfonce dans la nuit. Télécommunications coupées depuis 4 jours, morgue saturée, hôpitaux débordés et une répression qui vire au carnage. Selon l'ONG Iran Human Rights, au moins 648 manifestants ont été tués depuis le 28 décembre. Un chiffre qui pourrait grimper à plusieurs milliers tant les informations sortent au compte-gouttes. En parallèle, le régime organise ses contre-rassemblements, drapeaux verts et slogans hostiles à l'Amérique, pendant que le guide suprême parle d'une guerre contre des terroristes. Des mots qui font planer la menace de la peine de mort sur des milliers d'Iraniens arrêtés. En tout cas, l'alerte des ONG est plus forte que jamais. Mahmoud Amiri Mogadam est directeur d'Iran Human Rights et redoute un massacre à huis clos. Il prévient, le bilan réel pourrait être bien plus grand encore. Écoutez-le.
We issue concern and warning about possibility of using the death penalty.
Nous sommes très inquiets de la possibilité de l'usage de la peine de mort contre les manifestants. Ces derniers jours, le chef du pouvoir judiciaire de la République islamique a fait plusieurs déclarations disant que cette fois-ci, aucune clémence ne serait accordée aux manifestants et que le processus devait être rapide. Pour nous qui savons de quoi la République islamique est capable, c'est très inquiétant. En 1981, il y a eu des exécutions de masse d'opposants quelques jours après leur arrestation. Tout cela est vraiment alarmant. Nous savons que les proches d'un manifestant arrêté ont été informés de l'exécution prochaine de leur fils. Cette information est difficilement vérifiable à cause de la coupure des télécommunications, mais nous devons prendre ces menaces très au sérieux.
Take these warnings very seriously.
Mahmoud Amir et Mogadam au micro RFI de Lila Olkionora.
Vous l'avez peut-être entendu hier sur notre antenne.
L'historien Vincent Lemire pourra finalement se rendre en Israël. L'interdiction de séjour à son encontre a été levée hier dans la soirée. Il pourra donc s'envoler pour un séminaire universitaire dans l'État hébreu. Vincent Lemire critique des opérations israéliennes à Gaza, décrit le pays comme son terrain de recherche depuis 25 ans. Et puis, 4 morts, 6 blessés, une nuit entière sous les drones aux abords de Kharkiv. Une nouvelle salve russe a ravagé un bâtiment de la société postale Nova Pochta. Secouristes dans les gravats, fumée épaisse, évacuation sous la lampe torche à l'intérieur de la ville. Un sanatorium pour enfants a aussi été touché. Un incendie, mais pas de victimes selon les premières informations. Plus au sud, Odessa a encaissé 2 vagues de drones. Là, des immeubles ont été éventrés, un hôpital endommagé, au moins 5 blessés. Puis à Zaporijjia, des explosions en série cette nuit également.
Au Venezuela, un prisonnier politique est mort dimanche en détention.
Alors même que Caracas annonçait une vague de libération massive, mais dans les faits, seuls 49 remises en liberté ont été confirmées. Il reste plus de 700 prisonniers politiques derrière les barreaux. Depuis une semaine, les proches campent devant les prisons, tentent d'aligner nuit à la belle étoile et une seule demande, que le pouvoir tienne parole. Tout cela sur fond de grand marchandage diplomatique. Washington revendique la pression exercée. Donald Trump recevra jeudi Maria Corina Machado à la Maison Blanche, l'opposante, pendant qu'il dit travailler très bien avec Delcy Rodriguez, présidente par intérim, pressée d'avancer sur un nouvel agenda, y compris avec l'Union européenne. Dans ce climat tendu, donc, les libérations tombent au compte-gouttes et les familles, Alice Campagnol, comptent les heures.
Devant le commissariat de la zone 7 à Caracas, ils sont des dizaines à attendre. Ils ont installé des matelas de fortune. Certains dorment sur place depuis l'annonce faite jeudi dernier. Comme Yeni, qui n'a aucune nouvelle de son compagnon arrêté en novembre.
On est dans l'incertitude totale. Depuis le premier jour et jusqu'à maintenant, on a organisé des tours pour dormir, pour voir s'il y a du mouvement. Le seul point positif, c'est que ce commissariat n'a qu'une seule entrée. S'ils sortent, c'est forcément par ici.
Le seul prisonnier qui est sorti dernièrement de ce commissariat s'appelait Edison Torres Fernandez, fonctionnaire de police arrêté pour avoir critiqué publiquement les autorités au pouvoir. Il est décédé samedi à l'hôpital, selon les autorités, en détention, selon les organisations de détention. Défense des droits humains. Yelsi est inquiète pour son mari incarcéré.
Être détenu par les autorités ne t'assure absolument pas de rester en vie ou d'être bien traité. Il était fonctionnaire de police en plus. Imaginez ce qu'ils peuvent faire à un civil lambda. Ça peut arriver à n'importe qui.
Tous assurent qu'ils resteront mobilisés jusqu'à la remise en liberté de leurs proches. Délibération au compte-gouttes pour le moment. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les violences sexuelles restent utilisées comme armes de guerre.
La conclusion d'un rapport publié hier par Human Rights Watch, l'ONG de défense des droits de l'homme, a documenté des cas de violence dans plusieurs provinces en conflit du pays, notamment Ituri, Sud et Nord Kivu, et alerte sur le manque de financement. Human Rights Watch qui s'inquiète aussi de l'absence de suivi juridique qui favorise l'impunité. Écoutez Patrick Thompson, il est chercheur dans la division crise et conflits de l'ONG.
Parfois les agresseurs sont cagoulés, parfois ils portent pas la tenue complète, parfois ils disent pas grand chose, donc ça devient très compliqué pour les identifier, qui pose des problèmes énormes pour la poursuite de la justice, car aucune des survivantes que nous avons rencontrés avaient même tenté de porter plainte car ils ne pensent pas que sans reconnaître leur agresseur, ils vont pas pouvoir avoir la justice. Le gouvernement congolais devrait enquêter sur toutes les allégations de violence sexuelle. On a entendu que souvent, ils n'ont pas les moyens pour faire les enquêtes sur place. Et donc, il faut augmenter le financement pour les enquêtes judiciaires et aussi réduire les coûts pour les survivantes. Car on a entendu aussi que pour les survivantes, parfois, il faut payer jusqu'à 1000 dollars pour suivre leur cas, car il faut payer pour les documents, il faut payer pour les examens forensiques parfois. Et donc, ça devient un obstacle important pour elles.
Patrick Thompson, d'Human Rights Watch, au micro RFI de Pauline Azidi.
C'est l'un des dossiers les plus épineux dans la relation entre la Chine et l'Union européenne et il vient de connaître un nouveau rebondissement.
Les droits de douane européens sur les voitures électriques chinoises pourraient donc bientôt être assouplis, instaurés en octobre 2024. Cette taxe additionnelle qui pouvait atteindre 35% avait conduit à une guerre commerciale. En représailles, Pékin avait déclenché des enquêtes anti-dumping sur le lait, le cognac ou encore le porc européen. Désormais, Bruxelles ouvre la voie à un autre système, Arthur Ponchelet, celui de prix plancher pour les voitures électriques chinoises vendues en Europe.
Des prix qui seraient calculés au cas par cas selon le type de modèle ou le niveau d'équipement des voitures concernées. C'est un document publié ce lundi par la Commission européenne qui détaille les contours de ce nouveau plan. Ces prix planchers ont le même objectif que les droits de douane, compenser les subventions accordées en Chine aux constructeurs, subventions qui rendent leurs véhicules électriques beaucoup plus compétitifs que leurs équivalents européens. La Chambre de commerce chinoise dans l'Union européenne salue cette annonce. Elle parle de résolution en douceur du contentieux. N'allons pas trop vite en besogne, répond un porte-parole de l'Union européenne pour le commerce. Il s'agit à ce stade, je cite, d'indications aux exportateurs chinois qui pourraient à terme remplacer les droits de douane. Malgré ces taxes qui peuvent atteindre jusqu'à 35%, les véhicules chinois gagnent en part de marché sur le vieux continent. Ainsi, en novembre dernier, près de 13% des voitures électriques vendues en Europe étaient de marque chinoise.
Explication signée Arthur Ponchelet pour RFI.
Du théâtre pour terminer.
Avec les flux de migration au cœur de la pièce de théâtre Ressac, du jeune comédien, auteur et metteur en scène Gabriel Goslan-Hagendorf, une création qui décrit l'attente des exilés qui arrivent à Calais en France dans l'espoir de rejoindre le Royaume-Uni, Savannah Ruelland.
Ressac, c'est l'histoire de Camille, bénévole d'Utopia 56 qui se rend à Calais et rencontre Amna, femme exilée qui cherche à rejoindre l'Angleterre. Pour écrire cette histoire, Gabriel Goslan-Hagendorf est allé sur place pendant 3 semaines et s'est imprégné des récits qu'il y a rencontrés.
J'ai aussi voulu aller à Calais parce que j'en savais vraiment rien. J'avais le mot jungle de Calais en tête comme beaucoup de gens et il y a énormément d'histoires. J'ai pris un peu de l'un, un peu de l'autre. Et donc Amna, c'est la pas d'origine claire, mais parce que l'idée c'était d'en faire un personnage symbolique.
Sur une plage française, 3 personnages et 3 réalités se font face. Le policier intransigeant, l'humanitaire impuissant et l'exilé qui veut traverser la mer.
Aucun droit ne l'empêche d'être là, aucune loi.
T'es dans une asso, toi.
Ça te dit quelque chose, l'aide au séjour irrégulier, l'aide au passage, c'est illégal.
Ce huis clos à ciel ouvert raconte les flux et les reflux d'exilés, le Ressac et ses conséquences.
Savannah Ruelland.
Guillaume Ouattara pour le journal. Merci beaucoup RFI. Bientôt 7h13 à Paris. Dans 5 minutes, notre grand invité international, la cinéaste iranienne Sepideh Farsi, avec elle on va parler de ce mouvement de contestation en cours en Iran et violemment réprimé par les autorités alors qu'un blackout total continue sur le pays. Entretien avec Julien Coquel-Rohem à suivre tout à l'heure à 7h20. D'abord l'infosport. Et du football à la une, Victor Mesistrano. Grosse surprise hier soir dans le derby parisien. Le PSG ne remportera pas sa 3e Coupe de France d'affilée.
Et oui, le Paris FC a frappé un grand coup au Parc des Princes en s'imposant 1-0 pour rejoindre les 8e de finale. Battu en Ligue 1 8 jours plus tôt, l'autre club de la capitale a donc pris sa revanche. Le PSG s'est pourtant créé de nombreuses occasions, mais a buté sur le jeune gardien Obed Nkambadio en état de grâce. L'autre facteur clé de ce succès du PFC, c'est l'entrée décisive d'Ilan Kebal en seconde période. Après avoir récupéré le ballon, le milieu offensif algérien a servi Jonathan Ikoné, qui a inscrit le seul but du match. Tout juste revenu de la CAN, l'international algérien savoure cette victoire héroïque face aux champions d'Europe.
Ah oui, c'est un exploit, on l'a vu sur le terrain, c'était très très difficile. C'est des joueurs incroyables, et pour gagner face à ces équipes-là, il faut un peu de réussite aussi, un grand gardien. Il nous a fait énormément d'arrêts, ils ont raté beaucoup, mais c'est ce qu'il faut contre ces équipes-là. Nous, on en a eu 2-3, et on a piqué, donc voilà, très heureux de la victoire. Et on s'attendait à ce match, quand même, un match comme ça de toute façon. Ça faisait un moment qu'on était dans une série un peu noire, et aujourd'hui, cette victoire va nous faire du bien, je pense, mentalement. Et voilà, content, mais voilà, le plus important aussi, il faut vite se remettre droit pour le championnat, parce qu'on n'est pas bien au classement, et on joue une équipe concurrente directement dimanche, donc ouais, très heureux, on a chanté un peu, et après, vite se remettre les têtes à l'endroit, parce que le match le plus important, c'est dimanche.
Ilan Kebal au micro de Babacar Diarra. Cet exploit va redonner de la confiance au Paris FC à la peine en Ligue 1, 15e avant de se déplacer dimanche à Nantes, 16e du classement. Hier soir, juste avant le derby, Mamadou Sakho a annoncé la fin de sa carrière à 35 ans. Sans club depuis cet été, l'ancien défenseur de l'équipe de France et de Liverpool est le plus jeune capitaine de l'histoire du Paris Saint-Germain, dont il avait porté le brassard à seulement 17 ans.
Ce soir, suite et fin des 16e de finale de la Coupe de France avec une affiche très déséquilibrée en perspective.
Oui, Marseille se déplace à Caen, dans le nord-ouest de la France, pour affronter le Bayeux FC, club amateur qui joue en Régional 1, c'est la 6e division. Coup d'envoi 20h temps universel. Hier en Italie, la 20e journée du Calcio s'est terminée par la large victoire 5-0 de la Juventus contre Cremonese pour reprendre la 4e place à la Roma.
Et puis en Espagne, c'était attendu, après des résultats décevants, le Real Madrid change d'entraîneur.
Xabi Alonso était sur la sellette depuis des semaines. La défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne dimanche contre le Barça aura été celle de trop. Le club a annoncé hier son départ d'un commun accord, 8 mois après l'arrivée de l'entraîneur espagnol en provenance du Bayer Leverkusen. C'est un autre ancien joueur du Real qui lui succède, son compatriote Alvaro Arbeloa, lui aussi champion du monde 2010 avec l'Espagne. Sa mission, relancer la Maison Blanche et lui éviter une deuxième saison consécutive sans titre majeur.
Victor Missistrano, merci, on vous retrouve dans une demi-heure pour le journal de la CAN. Et bonjour Stéphane Jeunesse.
Bonjour Andréane.
Dans aujourd'hui aujourd'hui l'économie ce matin, on parle de l'euro numérique, alors que dimanche, près de 70 économistes européens ont publié une lettre ouverte adressée aux eurodéputés. En cause, un vote crucial attendu au Parlement au printemps pour décider de l'avenir de ce projet d'euro numérique, un projet porté par la Banque Centrale Européenne. Mais alors voilà, derrière ce débat technique se cache, Stéphane, une question essentielle: qui contrôlera notre monnaie dans le monde numérique de demain? Alors d'abord, dites-nous de quoi on parle avec cette nouvelle forme de monnaie.
Alors l'euro numérique, disons-le tout de suite, c'est un projet pour le moment. Alors ça peut sembler un peu abstrait, mais c'est très concret. Il s'agit en fait d'une nouvelle forme d'euro émise directement par la BCE, la Banque Centrale Européenne, mais sous forme numérique. Ce serait donc de la monnaie de banque centrale, comme les billets ou les pièces, mais pas de manière matérielle, hein, stockée dans un portefeuille numérique, comme par exemple dans votre smartphone.
Mais aujourd'hui, payer avec une carte bancaire, c'est déjà utiliser de l'argent numérique,
oui,
non ?
Oui, c'est un paiement dématérialisé, c'est vrai, mais la différence, elle demeure avec la monnaie en tant que telle. Celle qu'il y a sur votre compte bancaire qui vous permet de payer, elle est créée par les banques commerciales. Les paiements passent par toute une chaîne d'intermédiaires privés, les banques donc, les réseaux de cartes ou encore des prestataires techniques. Avec l'euro numérique, vous oubliez tout ça, le paiement se fait en direct, en monnaie de banque centrale, sans intermédiaire donc. C'est comme si vous tendiez un billet émis par la banque des banques, mais de manière digitale.
Et donc, ce système, il a vocation à remplacer l'argent liquide ?
Alors non, il serait complémentaire, et surtout, ce serait une option de plus de paiement. En fait, Andréane, il s'agit d'une question de souveraineté, car aujourd'hui, rien qu'avec nos cartes bleues classiques, l'Europe s'est rendue compte qu'elle était massivement dépendante à des acteurs non européens, souvent américains. La preuve, 7 paiements sur 10 par carte bleue en Europe se font via Visa ou Mastercard, deux groupes américains. PayPal, Apple Pay, Google Pay jouent aussi un rôle croissant.
Et pourquoi c'est un problème aujourd'hui, cette dépendance à des acteurs dont on connaît l'efficacité ?
Eh bien parce que le contexte géopolitique, il a changé. Si demain ces technologies américaines ne sont plus exploitables en Europe, c'est tout le système de paiement qui va être affecté, pour ne pas dire bouleversé. Et puis surtout, il y a une explosion des stablecoins. Vous savez, ces monnaies numériques indexées le plus souvent sur le dollar, les États-Unis les soutiennent pour renforcer la domination du billet vert dans la finance numérique mondiale. Et par exemple, si demain vous payez avec un stablecoin en dollars, vous ne payez plus vraiment en euros. L'Europe tente donc d'être un acteur du milieu, proposant cette alternative qu'est l'euro numérique.
Ça peut marcher d'après vous ?
Alors, C'est tout l'enjeu, mine de rien. Vous évoquiez la tribune de 70 économistes du continent. Eh bien, ils militent pour que cet euro numérique reste public. En gros, qu'il ne passe pas par des banques classiques, puisque, disons-le, ces banques, elles sont très sceptiques vis-à-vis du projet. Elles craignent une fuite des dépôts, notamment. C'est pour ça que le sujet est si sensible. Bruxelles doit donc trouver le bon équilibre, proposer une monnaie numérique publique crédible à l'échelle mondiale face aux mastodontes américains, sans pour autant fragiliser le système bancaire, avec un possible lancement dans 3 ans, en 2029.
Stéphane Genest pour aujourd'hui l'économie sur RFI, 7h19 à Paris. Alors que le mouvement de contestation continue en Iran, notre invité ce matin dans nos studios est la cinéaste iranienne Sepideh Farsi. Elle répond aux questions de Julien Coquel-Rohem.
Bonjour Sepideh Farsi.
Bonjour Julien.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes réalisatrice iranienne en exil en France depuis maintenant plus de 40 ans. Vous nous offrez depuis votre regard sur ce pays que vous avez dû quitter dans les années 80 après avoir été vous-même emprisonnée à l'âge de 16 ans. Ça fait maintenant plus de 100 heures que le blocage des communication est en vigueur en Iran. Les informations nous parviennent au compte-gouttes. Elles nous peignent un tableau d'une contestation qui continue, mais d'un bain de sang également. Vous écriviez il y a 2 jours, Sepideh Farsi, être partagé entre l'angoisse et l'espoir. Quel est le sentiment qui prime chez vous ce matin ?
Ce matin, je suis dans le noir. Parce que les images et les nouvelles arrivent presque plus. Hier et ce matin, j'ai vérifié encore, il n'y a qu'une vidéo qui est arrivée de Téhéran, qui est très... Et ça montre en fait que les gens sont encore là, mais les nouvelles sont trop parcellaires et trop peu pour qu'on puisse juger de la situation. Donc toujours l'angoisse et toujours l'espoir, parce que le bain de sang continue, je pense.
Avec un tel mouvement face à un régime dans un tel état d'affaiblissement, avez-vous le sentiment que nous sommes à un tournant aujourd'hui, que nous sommes à un moment de bascule pour le pays?
Alors, nous sommes certainement à un moment de bascule parce que l'ampleur du soulèvement est vraiment inédite. Ça fait très longtemps et je pense qu'à l'échelle de l'Iran, en fait, il y a plusieurs composantes qui se mettent ensemble. Il y a le fait que ce soit aussi étendu dans les 31 provinces de l'Iran.
Toutes
les classes de la société et tous les âges. Donc c'est très intersectionnel, intergénérationnel. Et le nombre des gens est quand même très, très important. On voit des manifs mais qu'on n'avait pas vus, je crois, que depuis... Enfin, en termes de nombre, en 2009 seulement, parce qu'en 2022, c'était beaucoup plus éparpillé.
Oui.
Les attaques ne permettaient pas les cortèges de se former. Là, on voit des cortèges immenses. Et en même temps, il y a tout le reste. Il y a les revendications, il y a le fait que les femmes... sont là, très présentes, mènent même parfois les cortèges. Il y a l'image de cette jeune femme qui menait les bazaris et les hommes. Il n'y avait que des hommes derrière elle. C'est une jeune
fille. Vous auriez imaginé voir des images comme ça aujourd'hui ?
Bah, c'est difficile. Avant que ça commence, on est toujours dans l'attente. Et puis une fois que ça démarre, on dit bah oui, c'était évident. En fait, je vous le disais à l'instant même, ça fait plusieurs mois qu'on attendait une éruption à cause de la chute du taux de change toman dollar ou toman
euro, de la monnaie iranienne,
qui a
atteint des niveaux extrêmement bas.
Absolument, les gens ont perdu la moitié de leur pouvoir d'achat, quoi. En gros, en l'espace de, enfin très très peu de temps. Donc beaucoup de gens ont du mal à se nourrir dans un pays très riche, a priori.
Ce à quoi nous assistons aujourd'hui semble en effet, sinon inédit, au moins majeur, aussi bien dans la mobilisation, on en a parlé, que dans la réponse des autorités, ce blackout total des communications, une répression qui semble tourner au massacre, à l'horreur. On a vu les images, on voit aussi certaines sources évoquer un possible bilan de 6000 morts. Est-ce que c'est un signe de fragilité aujourd'hui, Sepideh Farsi, pour le régime? Est-ce qu'on le voit tirer ses dernières cartouches ou est-ce qu'une fois de plus, il peut s'en tirer par cette répression sanglante?
C'est difficile à dire parce que ce signal... montre que ce signal, ce comportement montre que le régime est aux abois. Ils ont organisé une manif, la première contre-manif hier, donc lundi à 14h heure de Téhéran, dans une place qui n'est pas une des plus grande place de Téhéran. Nous, on sait où c'est. Mm. Place de la Révolution. Justement, le nom est symbolique. Voilà, Maidan Enghelab. Mais justement, en termes d'étendue, donc pour pouvoir bien faire la mise en scène. Et il y avait quand même du CGI. Il y avait des images trafiquées. C'est-à-dire que la foule, elle est...
Elle a été grossie par rapport à son nombre réel.
Absolument.
On parle, je crois, de quelques milliers de personnes.
Ouais, bon. Et ils ramènent des gens en bus. Enfin, il y a quand même des fonctionnaires, des gens qui sont ramenés de force, quasiment. Enfin, ou qui sont contraints, pas de force, mais c'est-à-dire, bon, ce sont des gens qui sont très proches, qui sont dans le système. Et ça montre que le régime veut encore se faire une image. Donc, à la fois, il y a le blackout, il y a ça, et il y a la répression féroce. Donc, je pense que le régime est certainement fragilisé. C'est pas du tout... Alors, est-ce que cette fragilité va aider le mouvement à le renverser, ou est-ce que aux abois et dans cette fragilité, il va tellement réprimer que ça va stopper net.
C'est toute la question.
C'est toute la question. Mais pour l'instant, on est quoi? Au 17e jour, et les gens, ils étaient là encore hier soir.
On voit aussi, ça aussi, c'est étonnant, le régime se dire ouvert à des discussions avec les États-Unis. Ça aussi, c'est un signe que le régime des Mollahs, le régime de Téhéran aujourd'hui, est prêt à tout pour sa survie.
Flanche, bah oui, oui, évidemment. Ouais. Ça, c'était la ligne rouge. Jamais ils auraient...
On n'a jamais vu ça.
Non, mais non, jamais. À chaque fois que quelqu'un du régime, un dignitaire ou un haut gradé, un ministre, un président, voulait parler, négocier, tout d'un coup, tout de suite ramené, il disait non, on ne négociera jamais avec les États-Unis. Voilà. Et là, cette fois-ci, il n'a rien dit. Ça montre que quelque chose a changé.
D'ailleurs, on parle d'une possible mise à l'écart de l'ayatollah Khamenei aujourd'hui.
Le danger, c'est qu'on arrive à des négociations. On sait que Donald Trump est quelqu'un pour qui rien ne compte que les intérêts économiques, que le business, et que ça aboutisse et que le régime reste.
Oui.
Ça, c'est le danger.
Il y a aussi le danger, en tout cas le scénario d'une intervention américaine par les armes. C'est un scénario qui vous inquiète ?
Beaucoup, puisque non seulement en Iran, en juin dernier, l'intervention conjointe israélo-américaine n'a rien donné de bon pour le peuple.
Avec beaucoup plus de répression depuis, d'ailleurs.
Exactement. C'était une des années, des pires années 2025 en termes de nombre d'exécutions qui, selon les chiffres, certains disent plus de 1400, d'autres organisations de droits humains avancent plus de 2200. Mmh. Donc, c'est quand même une année très meurtrière et la répression s'est accentuée. La répression et l'expulsion des migrants afghans, des réfugiés afghans, s'est accentuée. Toutes les minorités et tous les dissidents, toutes les voix dissidentes ont été réprimées plus férocement. Donc, à quoi ça sert en fait d'attaquer si le régime se renforce, en sort plus fort? Ça sert à rien pour moi. Moi, c'est mon analyse.
Ce qui est aussi marquant et aussi inédit dans ce mouvement de contestation, ce sont ces slogans en faveur de Reza Pahlavi, le fils du Shah déchu en 1979, l'ancien prince héritier en exil, qui multiplie les messages pour mettre le régime sous pression. Il y a quelques jours, vous écriviez dans une tribune dans le journal Libération votre crainte d'un hold-up du mouvement. Vous évoquiez aussi l'erreur que représenterait l'union hâtive derrière un leader quand Reza Pahlavi se dit prêt à revenir au pays dès que possible. C'est à lui que vous pensiez en écrivant ces lignes ?
Bien entendu, oui. Moi, ce n'est pas une attaque personnelle, c'est juste que je me souviens très bien du scénario et de ce qui s'est passé, de la séquence 78-79. Peu avant encore, le nom de Khomeini a commencé à prendre de l'ampleur, à être revendiqué en cours de l'année 78. Mmh. Avant, il était connu dans les cercles anti-monarchistes comme un leader religieux en exil. Il était, vous le savez, en exil pendant 15 ans en Irak. Le Shah avait préféré le faire partir en exil, l'exiler, plutôt que de l'emprisonner ou de le tuer, parce que c'était possible, mais il a préféré l'éloigner du pays. Et en fait, il est revenu juste avant. Et donc là, je voudrais qu'on aille jusqu'aux urnes. Les Iraniens méritent, et les Iraniennes méritent d'avoir un choix démocratique, un vrai débat.
Et de ne pas se voir confisquer leur volonté.
Moi, c'est ça que ça me ramène à l'esprit.
Merci beaucoup, Sepideh Farsi, d'avoir accepté l'invitation des RFI ce matin. On vous réinvitera très bientôt pour poursuivre cette situation ensemble. Très bonne journée.
Merci pour l'invitation, Julien.
Un entretien avec Julien Coquel-Rohem.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
psychologie du soldat, comment la guerre change-t-elle les combattants?
Demain,
la rate, un organe qui protège des virus et des bactéries.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Pourquoi RFI dit ça? Posez vos questions. Juliette Rangeval.
Chaque semaine, nous vous expliquons les contraintes et le fonctionnement de la fabrique de l'information. Alors si vous avez des questions ou des commentaires sur notre traitement de l'actualité, à l'antenne comme sur le numérique, une adresse pour nous écrire pourquoi@rfi.fr.
Nous répondons à toutes vos questions tous les vendredis à 19h41 sur RFI. Ce mardi sur RFI.
Quelle science des données ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Rencontre avec un mathématicien visionnaire, aussi interdisciplinaire qu'indiscipliné, le professeur Stéphane Malla, lauréat de la médaille d'or 2025 du CNRS. Il partage avec nous les mystères.